الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Mes honorables invités, les mariés, Dr Salim Pirali et son épouse Taslima, c'est ma Betty, c'est ma fille, nous l'avons adoptée à La Réunion. Taslima est comme notre fille. Elle m'a demandé, c'est à sa demande que je me suis mis là, je ne m'interroge jamais. C'est à sa demande que je me suis mis devant vous. Elle me dit de dire deux mots. Alors je dis mes félicitations et c'est fait. Je peux m'asseoir, parce que vous êtes déjà servi, je vois. Je n'ai pas l'intention d'être long, j'ai juste l'intention de dire quelques mots à sa demande. Le nikah, chez nous, est sunnah, c'est-à-dire une action que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a faite à un âge jeune, mais aussi à un âge avancé. Par exemple, il avait environ 25 ans selon les riwayats. Lui, il avait 25 ans quand il a épousé Hazrat Khadijatul Kubra radiyallahu ta'ala anha, qui était sa patronne, celle qui était veuve et qui avait environ une quarantaine d'années. Ce qui prouve que dans ce sens-là aussi, on peut se marier, c'est-à-dire avec une certaine différence d'âge. L'islam n'empêche pas le mariage avec une certaine différence d'âge. L'islam accepte le mariage, quel que soit l'âge de la personne. Et ils ont vécu heureux. C'est à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'homme d'une femme. Sachez-le, nos détracteurs nous racontent des tas d'histoires, c'est des sornettes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'époux d'une femme. C'est à la mort, au décès de Hazrat Khadija à Makkah Mukarrama, et ensuite, lorsqu'il est allé à Madina Munawwara, voyant sa tristesse, son chagrin, parce que quand un homme, un mari, perd sa femme, c'est dur, croyez-moi. J'en sais quelque chose. Et à ce moment-là, en voyant sa solitude et son chagrin, il a eu un chagrin immense au décès de son épouse qu'il avait soutenue contre vents et marées, pendant la période mécoise, qui était la période galère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en même temps, la période la plus exaltante, puisque la descente de la révélation divine. Mais, malgré ça, il a éprouvé un chagrin immense. Puis, sous les conseils de beaucoup de gens, il s'est dit qu'il fallait qu'il se remarie. Ce qui veut dire que le remariage, pour un veuf ou pour une veuve, est quelque chose de tout à fait possible dans l'islam. Toutes les religions ne l'admettent pas, vous le savez, je ne rentre pas dans les détails. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conçu l'idée d'épouser, et cette fois-ci il a épousé une fille jeune, Aïcha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, qui était beaucoup plus jeune que lui. Ce qui fait que dans l'autre sens aussi c'est bon, il a épousé une femme âgée, veuve, et c'est la seule fille qu'il a épousé, c'est la seule demoiselle dans tous ses mariages, sachez-le. Si vous regardez les livres de hadith, Ou bien toutes les autres sont soit des veuves, soit avec des divorcés, soit des femmes très malheureuses et très dont la vie était particulièrement difficile, des blessés de la vie, comme je le dis. Le nikah est sunnat chez nous, mais il est wajib chez d'autres imams comme Imam Ahmad ibn Hanbal radiyallahu ta'ala. Je voulais simplement vous dire certaines petites choses, si vous permettez. En 15 minutes, sachez-le, vous êtes venu, peut-être pas pour m'écouter, vous êtes venu pour autre chose, et que bientôt vous sentirez la fin. Alors vous me direz, vous dites pour le voilà, c'est fini. Bon, on est en train de faire pour le voilà. Dans les hadiths, tout ce que je dirais, c'est à peu près dans ce sens, puisque toute traduction est une trahison, c'est un traducteur qui vous parle. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à peu près ceci: un homme, s'il n'est pas marié, c'est un pauvre, un fakir, un malheureux, un homme seul. Fakir, vous savez, c'est presque un SDF, c'est un misérable, si vous préférez le mot. Lui, dit-il, les sahabis, ses compagnons, ont redemandé à Rasulallah si cet homme est riche, lui aussi est ghalib. Vous connaissez le sens du mot, ghalib, pauvre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui, lui aussi, il est fakir. Quand un homme n'est pas marié. Trois fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété la même chose. De même, une femme pas mariée, est-ce qu'elle est ghalib? Miskina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les sahabis ont redemandé la même chose. Même si elle possède des tonnes d'or, elle aussi, elle est fakir. Ce qui signifie que le mariage est une nécessité impérieuse. On ne l'a pas rendu faraz ni wajib. Nos imams ne l'ont pas rendu faraz ni wajib, c'est-à-dire obligatoire ou formellement obligatoire. Simplement parce qu'il y a des situations où on ne peut pas se marier. Il y a des cas. Et l'islam prévoit toutes les possibilités et prévoit tous les paramètres. Il est obligé, l'islam est obligé, c'est la seule religion qui est obligée de tenir compte de tous les paramètres qui puissent exister. C'est ce qu'on appelle les masaïl. Le nikah est une richesse. Le nikah, c'est-à-dire le mariage, est une richesse. Et ce mariage permet à deux personnes de se construire. Un homme et une femme ne s'accomplissent parfaitement, ne se réalisent pleinement que dans le mariage. On ne pourra jamais expliquer à un célibataire endurci, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est quoi les vertus et le bonheur du mariage, les bienfaits du mariage. On ne pourra jamais le convaincre. Alors il faudrait pourtant trouver les mots pour lui dire que ce que tu vis là dans ta vie seule, si tu étais à deux, c'est autre chose. Alors, j'ai l'habitude de dire qu'en mathématiques, 1 plus 1 ça fait 2. En termes de mariage, on met les maths de côté, 1 plus 1 égale 1. Et ça, ce n'est pas Euclide qui va vous expliquer ça, c'est un chef qui va vous expliquer ça. Alors, méfiez-vous de tous ceux qui disent que disent les rêves comme les autres. Où est-ce qu'on met, où se trouve, se place la deuxième épouse, ou quelqu'un se marie une troisième fois, une quatrième fois, l'islam envisage toutes les possibilités. Où est-ce qu'il place ça? Il y a un hadith qui a écrit que dans notre cœur, qui n'est qu'un muscle, après tout, tout petit par rapport au corps, ce muscle-là, c'est ça, c'est le cœur physiologique. Il y a en même temps un cœur spirituel. Et ce cœur spirituel, lui, il est constitué d'alvéoles, d'étagères, d'espaces, qui sont les places pour tout. Il y a de la place dans le cœur pour les parents, comme dans notre armoire, on a un tiroir pour les sous-vêtements, un tiroir pour les chaussettes, un tiroir pour les vêtements, etc. De la même façon, dans le cœur humain, nous disent l'Olama, il y a des alvéoles, il y a des cavités, il y a des places où se situe à la fois l'amour de sa maman, l'amour de son papa, l'amour des enfants, l'amour des voisins, etc. L'amour de tout ce que vous voulez, de son âme, de son dada. Il y a de la place dans ce cœur-là. Il y a de la place, et suffisamment de place. Et ce cœur, c'est comme Haram Sharif. Plus il y a de gens, plus il se remplit, et plus il y a de la place dedans. Au moment où les gens se mettent debout. Parfois, ils vous disent, reste debout un instant, dans un instant, quand la salade va commencer, tu auras de la place. Parce que les gens avancent. Etc. Donc de cette façon, le cœur humain, avec ses cavités, ses étagères et ses tiroirs, on peut y glisser tout ce qu'on veut. Tous ceux qu'on aime,
tout ce que nous aimons peut entrer dedans. Dans ce cœur-là, peuvent cohabiter en même temps l'amour d'une Rolls Royce, l'amour d'une montre Rolex, ou celle que vous voulez, je pense que ça coûte pour ça, sa maison de rêve, son hobby, son passe-temps, sa passion, peut vivre dans son cœur aussi la femme de ses rêves, peuvent dedans cohabiter ses enfants, ses parents, ses proches, ses amis. Il y a de la place pour tout le monde. Ce cœur, on dirait que comme une éponge, hein, il s'écarte, il absorbe tout ça. Au fur et à mesure que notre vie avance, ce cœur-là ne grossit pas, parce que le cœur gros en la Réunion, ça veut dire autre chose. Oh, il y a un gros cœur, dit. Gros cœur, c'est pas la même chose qu'un cœur gros, hein, médical. Donc, ce qui fait que ce cœur-là, il absorbe tout ça. Il y a de la place pour l'argent aussi, il y a de la place pour tout ce que vous voulez. Le bonheur, c'est que pour être heureux, il faut qu'on se marie. On se marie pour quelle raison? Dans le prophète, dans un hadith célèbre, a dit ceci, qu'en général, on se marie soit, un, pour le bien matériel, la personne qu'on épouse est riche, dans un sens, l'autre, Hadith Khadija était riche, était une riche commerçante, et donc marchande caravanière, mais le prophète n'avait rien. Vous voyez? Ça peut être dans ce sens. On peut se marier pour la beauté de la personne. On peut se marier pour la noblesse de la famille. Et enfin, on peut se marier pour son dîn, pour la piété de la personne, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc, le point central, dit, quand vous épousez une femme, privilégiez. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas tenir compte des autres. Il faut aussi qu'il, comme dit chez nous, il ira là-haut, quoi. Hein. Il faut ira là-haut. Il faut que vous soyez attiré. Bon, mais privilégiez le dîn. Dans ces quatre critères que le prêtre a dit, privilégier. Ça ne veut pas dire négliger les autres. Mais en premier, tenez compte, est-ce qu'elle fait ça, cela? Est-ce qu'elle sera prête à venir avec Omra ou Hajj? Est-ce qu'elle fera ceci ou cela? C'est le premier critère que le prophète a établi pour les règles de mariage. Ça, c'était juste en passant. Alors, le prophète, ça, on dit, ah ben dans l'islam, il n'y a pas d'amour. Qui vous a dit ça? C'est une belle sonnette aussi, ça. Tazawajul wadud al-walud. Ou comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, épouser une femme, que je traduis comment, aimante, celle qui vous aime. Voilà l'amour, il l'a. Épouser une femme, aimante, épouser une femme fertile, une femme féconde, celle qui vous donne des enfants. Parce qu'il y a un grand philosophe qui s'appelle Gaston Bachelard, c'est une sommité mondiale, un français qui enseigne à Sorbonne, qui était le professeur de mon prof de philo, et qui s'appelait Gaston Bachelard, il a écrit des tas de livres, et c'est un spécial de la philosophie, il a dit, si le bonheur total, si vous voulez obtenir le bonheur total, mariez-vous et procréez. On croit entendre un musulman parler. Vous voyez, imaginez ça. Alors, si une femme aimante, qui sait aimer les hommes, enfin, son mari, ses enfants, etc., les humains, mais qui sait aussi aimer Allah. Ça, c'est ça. Alors, ce muhabbat, ce bonheur, ne se définit pas, il se sent, il se vit, il se perçoit. Il ne s'explique pas. Personne n'a jamais compris qu'est-ce que l'amour. Si vous la connaissez, la définition, venez me voir. Je suis preneur. Qu'est-ce que l'amour? Ça ne se raisonne pas. Ça ne s'analyse pas. On n'est pas en train de disséquer un crapaud, là, comme une biologie, là. C'est autre chose. L'amour est une autre dimension. C'est un rapport humain qui est extrêmement délicat à définir. Par contre, il se sent. Ne dites pas que vous ne sentez pas que votre moitié vous aime ou non. Ça se sent là. Et ça ne se sent pas là. Ça se sent là. Parce que c'est moins intellectuel que sentimental. L'amour, donc, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que les gens disent. Et l'amour, le bonheur, il ne s'achète pas, sachez-le. Le bonheur ne s'achète pas. Je vais essayer de venir de façon négative d'abord, avant de définir de façon positive. Le bonheur ne s'achète pas. Il ne se vend pas. L'amour que certains trouvent dans les rues chez les prostituées, ce n'est pas de l'amour. C'est tout simplement un échange, un marchandage. Hein? Ce n'est pas ça l'amour, c'est autre chose. C'est un acte sexuel pur. C'est pourquoi l'amour ne compte pas. Quand on aime quelqu'un, on ne compte pas. L'amour, le bonheur, ne se quantifie pas. Il n'y a pas d'unité de mesure pour le bonheur. Le bonheur ne se quantifie pas. C'est-à-dire, on peut dire, voilà, c'est tant de millimètres, tant de centimètres, tant de grammes. C'est pas comme ça qu'on raisonne en tant que terme. Il ne se mesure pas. S'il y a un dosimètre, j'ai trouvé ça, s'il y a un dosimètre, il n'y a pas de bonheur au mètre. Il y a un thermomètre, il y a un baromètre, il y a l'anémomètre, il y a tous les mètres que vous voulez, mais il n'y a pas de bonheur au mètre. Parfois, je dis, il y a un sabaromètre. Ça existe. Le sabaromètre, c'est-à-dire que, il y a du monde. Le sabar atteint ses limites. Le sabar, c'est-à-dire la patience. Bon, ça va, hein, ça suffit. Mais le bonheuromètre, ça n'existe pas. Si vous savez, si vous trouvez cet appareil-là chez le pharmacien ou chez le médecin, achetez-moi un, je suis preneur. Un bonheur à 100%, il n'y a pas d'échelle de valeur, ni d'unité de mesure. Il n'y a pas d'échelle de valeur, il n'y a pas d'unité de mesure pour ça, de balance ou d'appareil pour ça. Un bonheur à 100% peut exister. Mais il faut savoir que cette vie, le Lama dit que cette vie est une terre d'épreuves. On n'est pas dans le Jannat ici. Même si on côtoie le Jannat, même si on vit une vie de rêve, vivre dans le plus beau des palaces, aimer d'être aimé à côté de nous, etc., ça reste quand même un imtihan. Et si un gars, c'est une épreuve, il y a une terre, gars, elle disait mon cher, c'est une terre d'épreuves ici. Là-haut dans le Jannat, il n'y aura plus d'épreuves. Là-haut dans le Jannat, alors que Hadd al-Tafsir, définit la mort en ces termes, en disant que dans l'autre vie, dans le Jannat, c'est-à-dire là-haut, il n'y a ni mort, il n'y aura plus de mort, et il n'y aura plus de manque en quoi que ce soit. Et ici, sur cette terre, il manque forcément quelque chose. Alors, quelqu'un dit, peut me rétorquer en disant, mais moi je suis très heureux, mais je suis 100% heureux, très bien. Mufti Shafi, dans son Ma'arif al-Quran, c'est un commentaire célèbre du Coran, il dit ceci, l'homme est cet être qui raisonne toujours pour l'avenir. Il se projette constamment à l'avenir. Le caïman qui bouffe une antilope ou je sais pas, il ne se projette pas dans l'avenir. Il mange ce qu'il a, et puis il digère, pendant ce temps-là il dort, et après, quand il sera réveillé et qu'il aura faim, il va à la chasse à autre chose. L'homme, lui, il a, c'est en même temps une qualité, c'est en même temps une grosse faiblesse, parce que l'homme, il se projette constamment dans l'avenir. Même s'il est très heureux à un certain moment, il pense à l'avenir. Est-ce qu'un jour on va se quitter? Comment est-ce qu'on va se quitter? Qui va mourir avant? Le mari dit à sa femme, non, dis, moi je meurs avant, toi tu restes après moi. Et la femme dit l'inverse. Vous voyez? Parce que chacun dit, je ne pourrai pas vivre sans toi. Ce qui est beau, mais ce qui est idéaliste, ce qui n'est pas réaliste. Un bonheur à 100%, oui. Par contre, un malheur à 100%, ça existe. C'est le talaq, c'est le divorce. Ou deux personnes qui ne s'entendent pas, se séparent. On n'est pas là pour parler ça, pour ce soir en tout cas. Ça, ça peut être le bonheur. Tout homme, toute femme a le droit d'être heureux et heureuse. Jeune ou moins jeune. Bel euphémisme, je ne dis pas autre chose. Beau et belle, riche ou pauvre, en bonne santé ou malade, un malade aussi a le droit de se marier, veuf ou divorcé. Le mariage ne peut pas être démodé, jamais. Le mariage islamique, il a conservé ce caractère sacré. Et on se marie aujourd'hui, la cérémonie du nikah, hein, je parle pas de ce qu'il y a avant ni après, mais la cérémonie du nikah a exactement gardé la même forme, la même façon que ce qu'on faisait à l'époque du prophète. Un nikah simple, pratique, rapide. Et c'est ce qu'il faut. Un nikah doit être simple. Après les complications de ce qu'on fait, les pré-réceptions et les post-réceptions et tout ça, ça c'est un autre domaine. Un bonheur se construit petit à petit. Au fil des jours, au fil des ans, au fil des décennies, au fil de deux vies. Au fil de deux vies qui n'en font qu'une, plus qu'une. À partir du moment où on dit oui, de chaque côté, l'homme de son côté, la femme de son côté a dit oui, eh bien, c'est une vie où le bonheur se forge, se cultive par des petits soins. Je vais dire des petits riens. Les hommes, on nous traite toujours de machos. J'espère qu'on est ni sado ni maso. On est macho. Macho, c'est quelqu'un qui domine. Hein. Alors, les machos que nous sommes, c'est pas mal de apporter son petit déjeuner au lit à sa dulcinée, à sa moitié. Non? Une fois par semaine, le reste du temps, c'est elle qui fait. Je plaisante. Le bonheur se cultive. Le bonheur se protège. Se protège. Non pas sous serre, qu'on dit. Parce que quelqu'un disait, pour être heureux, soyez, vivons cachés. Non, on ne vit pas cachés. Mais on sait respecter les règles. On doit les. Il y a un cadre de vie qu'on appelle la charia. Et le respect de cette charia permet de ne pas dépasser les bornes, mais aussi de sauver son bonheur. De sauver son bonheur. Je n'en parle pas dans les détails, vous comprenez. Parce que il y a des gens qui sont envieux, il y a des gens dont il faut se méfier. Le bonheur, il ne se fie pas aux méchants, il ne se fie pas aux malicieux. Il faut qu'ils entendent. Les fauteurs de troubles, les marriage killers, dont il faut faire attention. En particulier, l'ordinateur et le GSM. Alors, il y a une étude qui a montré que 75% des femmes, vous m'excuserez, consultent le GSM de leur mari. Sachez-le, les messieurs. Et seulement 45% des maris osent, entre guillemets, consulter le GSM de leur épouse. Sachez-le. Il faut que le bonheur se protège contre les commérages, on appelle ça chez nous, je sais pas comment vous dites, les ladinafés, un tel a dit ça, un tel a dit ça, entre les époux. Le bonheur ne se réduit pas à la bagatelle. Me suis fait comprendre, je suis sûr. Bah, pas un petit mot. D'aucuns ont voulu le réduire à la montée des hormones, de certaines hormones. De la dopamine, je sais pas quoi. Bon. Pourquoi pas l'adrénaline après? Hein? Après tout. Le bonheur est discret. Il se vit à deux. Ne mêlez jamais même votre meilleur ami. C'est un conseil que je donne. Ni vos amis. Ça, c'est la vie avant. Ça, c'était comme dit l'autre. Ça, c'était avant. Comme dit la pub. Après le mariage, il y aura des réglages. Comme pour le GSM. Il y aura des réglages. Il y aura des accommodements. Il faudra faire attention. Le mariage, il se reflète et s'exprime dans les yeux, dans les gestes, dans les paroles, dans les mots. Le bonheur diminue et disparaît parfois quand il est englué dans la routine, la banalité, l'ennui et le train-train quotidien. Donc, messieurs, dames, sachez surprendre votre conjoint. Surprenez-le. Et on peut le faire même après 40 ans de mariage, je vous le garantis. Surprenez-le ou surprenez-la. Dites-le avec des fleurs. Alors les hommes, ils disent, ils sont tous gros doigts, ils donnent jamais fleurs. Et quand ils donnent, pour une fois qu'ils donnent, c'est pour se faire pardonner. Alors quand la dame reçoit un bouquet, l'autre lui vient, il dit, veuillez accepter ce modeste présent, elle rigole, dit, pauvre, qu'est-ce que tu veux là? Vous voyez? Parce qu'elle n'a jamais reçu de fleurs dans toute sa vie. Alors, dites-le avec des fleurs. Ça évite le train-train. L'amour ou le bonheur doit savoir s'improviser, se renouveler, innover. Il faut innover en matière d'amour. Comme on innove dans le commerce, comme on innove en matière technologique, comme on innove dans toutes choses. Le bonheur doit être partagé. Et c'est une relation à double sens. Pas à sens unique. À double sens. Pas à sens unique. Donc, quand il ne l'est pas, c'est qu'on s'est engagé dans un sens interdit. Qui peut nous mener très bien. Le sens interdit, c'est le zina, le ribat, le hasad, etc. Le soupçon et surtout la suspicion, point oui, point non. Mais aussi de la jalousie extrême. Hein? Un mari qui n'est pas jaloux de son épouse, une femme qui n'est pas jalouse de son mari, c'est suspect aussi. Il ou elle doit voir ailleurs. Mais la jalousie maladive, parce qu'on est 5 minutes en retard, bonhomme 5 minutes en retard, j'ai lu quand tu es sorti. Quand tu es allé. Je suis sûr qu'il y a une femme derrière. Non. Il y a des embouteillages pour lui derrière. Ou devant. Le bonheur nécessite, exige même une certaine souplesse, une certaine indulgence, une certaine capacité de pardon. C'est ce que le Coran prévoit dans le verset que je vous lis. Je vous ai lu au début. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah Ta'ala dit ici, parmi mes ayats, parmi mes signes, c'est-à-dire les signes de l'existence d'Allah, il y a que j'ai créé la femme, min anfusikum, de vous, par vous, et ce que j'aime, pour vous. Ça, les messieurs vont obtenir ça, hein. Les dames peut-être moins. Min anfusikum, azwaja, une épouse. Litaskunu ilayha, qui va vous apporter la sérénité. Le mariage, le bonheur, c'est une sérénité, croyez-moi. C'est ce mariage-là qui permet l'équilibre. Je crois que j'ai dépassé mon temps, non? Je continue ou je m'arrête?
Continue.
Hein? Merci, encore 5 minutes, je m'arrête. J'ai faim. Le mariage, eh bien, c'est un ensemble de choses. Ce mariage demande une indulgence. Alors, le Coran dit, mawaddatan wa kasti, il dit, les tasqunuha ilayha, waja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Et j'ai fait naître dans le cœur humain, dans le cœur du mari et de la femme, d'abord le muhabbat. Mawadda est un mot qui est poétique, qui a le même sens que muhabbat. Muhabbat, l'amour, mais l'amour passion, l'amour, au bon sens du mot, hein, le bonheur. Mawadda wa rahma, wa rahma. Pourquoi le Coran dit à la fois l'amour et le rahma, la miséricorde? Tout simplement parce qu'Allah prévoit toutes choses. Il sait qu'au bout d'un certain nombre d'années, il se produit ce qu'on appelle l'érosion des sentiments. Nos sentiments, pour certains, sinon pour d'autres, toute une vie, ils sont capables de passer dans le même état et encore plus. Ils peuvent même s'aimer davantage après 40 ans, après 50 ans, après 60 ans. C'est ce que je vous souhaite. Et c'est ce que je me souhaite. Parce que, je ne sais pas par quelle ironie de l'histoire, eh bien, on n'a pas une vie similaire. Mais enfin, je me suis remarié il y a un mois. Donc, quand je parle pour Salim et Taslima, ma femme s'appelle Salma, c'est la même racine. La paix. La paix. Donc, je parle un peu pour moi aussi, si vous préférez. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, Allah choisit deux mots. Mouadda, l'amour, et après le rahma. Le rahma, ici, les mufassirines traduisent par l'indulgence, la compréhension, le pardon, l'excuse. C'est-à-dire, quand les sentiments vont diminuer, un autre sentiment, les sentiments d'amour, de passion, parce qu'au début, on est passionné, hein, vous connaissez ça. Je t'aime. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Mais avant que ça n'arrive pas du tout, après le passionnément, eh bien, on transfère, il y a un transfert de Mawadda à Rahma. C'est-à-dire là maintenant, à 50, 60, 70 bananées, eh bien, on comprend l'autre. Tu vois que la meilleure définition de l'amour, c'est ceci, faire ce que l'autre conjoint aime et éviter de faire ce que il ou elle n'aime pas. Vous appliquez cette philosophie, ce n'est qu'une recette parmi d'autres, si vous appliquez cette, après le coup par coup, le cas par cas, si vous appliquez cette recette, Inch'Allah, tout ira bien. Donc, il y a, bon, on peut être en retard une fois, pas retard exceptionnel, bien sûr, mais pas retard systématique, tous les jours on nous rentre en minuit, hein. Le bonheur s'agrandit, s'épanouit, prospère. La recette, c'est le Mohammed, le bonheur s'agrandit, grandit, la recette, c'est le Mohammed. Le ittifaq, l'harmonie. Le ittihad, l'entente. Et ça, c'est le bonheur s'exprime par les mots. Quand vous aimez quelqu'un, dit le prophète, oui, on l'a accusé de toutes sortes de choses, d'un prophète guerrier, sanguinaire, nausbillah, nausbillah. Hein? Le prophète a dit, quand vous aimez quelqu'un, montrez-le. Quand vous aimez quelqu'un, dites-le lui. Exprimez votre amour. Donc ça ne coûte rien, même vos 40 ans de mariage, de retrouver sa femme, de la rencontrer et de lui dire je t'aime. Dans l'islam, c'est pas interdit. Il n'y a pas de question de pudeur ou de fausse honte là-dedans. Le bonheur s'exprime par des mots, j'ai dit, mais aussi par des cadeaux. Gift for life, vous connaissez, hein, qui sont pas forcément hors de prix. Des cadeaux, mais qui sont pas forcément hors de prix. Ça peut être n'importe quoi. Il s'exprime aussi par des petits gestes. Des petits mots gentils, cela nourrit son mohabbat. Maintenant, si vous voulez lui offrir un gros cadeau, ça vous est offert. Un collier de perles, une bague en diamant, un bracelet en or, mesdames, à vous de jouer. À bon entendeur, salut. Quand on aime, on ne compte pas. Il va chauffer sa carte bleue. Mais tout compte fait, finalement, oubliez ce que je viens de dire, parce que la mienne va me... Bon, non, elle n'est pas comme ça. Et entendu, elle est là, elle est présente. Je la vois, d'ailleurs. Elle n'est pas comme ça du tout. Croyez-moi. Non, je vous rassure. Elle n'est pas de ce genre-là. Alors, si vous comprenez bien, c'est ces petits riens, c'est ces petites attentions au bout d'un certain nombre d'années qui unissent le couple et qui préservent, qui conservent le couple. Je ne sais pas, moi, un week-end à l'hôtel de la Bourdonnée, par exemple. Merci pour les serveurs. Des petits déjeuners au lit, un repas pris dans un resto, des promenades romantiques, des balades, mais faites-le. Le monsieur n'a jamais le temps, le madame non plus. Des petits dîners amoureux aux chandelles. Ah, qu'est-ce que j'ai dit là, les ulama vont me sauter dessus. On ne peut pas se permettre ça, on peut au moins parler avec tact, délicatesse, avec de la douceur dans la voix. Qu'on s'adresse la parole. Une petite blague, puisqu'on était à table. Au début du mariage, paraît-il, quand il vient se marier, le monsieur dit à sa femme, « S'il te plaît, darling, chérie, tu peux me passer le sucre ou le sel? S'il te plaît, fais-moi plaisir. » Au bout de quelques mois de mariage, « S'il te plaît, donne-moi le sucre. » Un peu plus loin, « Du sucre. » Je ne continue pas. Un dernier point, et je me finis. Le corps humain vieillit, les jambes flageolent, ne laissons pas ce cœur se lâcher vieillir. On peut vieillir par son corps, physiquement, son cœur doit être toujours jeune. Le cœur de chaque couple doit rester jeune. Soyons plus indulgents envers l'autre et sains. Si une fois, au bout de quelque temps, on sent que le monsieur, il aime son mari, il aime le football, mais de temps en temps, on peut le laisser voir la Champions League, n'est-ce pas? Et si la femme, elle veut faire du shopping, bon, elle peut faire du lèche-vitrine, elle peut aussi aller avec ses copines, avec ses amis. Si la femme aime des jolies robes, ben faites-le. Si le mari dort un peu plus que la normale, la moitié, qui souvent pas est moitié, elle est trois quarts des fois, faites gaffe les gars, eh bien, laissez-le dormir. Vous les faire Fajar et dire, là c'est l'heure de Fajar, il faut que tu te lèves, mon gâté. Mais ça, c'est une chose. Si elle aime faire les courses, si elle veut que vous veniez avec lui, ben allez, t'as à peine le temps, là. Allez tout seul, toi. Alors, lis le bazar, il faut côtoyer toute qualité du monde, et où, dans un peu, on ronfle où. Le bonheur doit être conservé à tout prix dans un couple marié, coûte que coûte, car c'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau d'Allah. C'est une grande faveur, c'est un grand ni'mat, c'est un ni'mat kubra de la femme. Le bonheur, cherchez-le, trouvez-le, gardez-le. Finalement, le bonheur ne serait-il pas comme ces lunettes qu'on cherche partout et qui sont sous nos yeux? Je vous remercie. Juste deux mots sur le waliman. On a quelque chose qui s'appelle le waliman. Juste deux mots. Dans le Fathul Bari, c'est le meilleur commentaire du Sahih al-Bukhari, fait par Al-Allama Ibn Hajar Makki, rahmatullah alayh. Il a répertorié 7 cas où le repas est sunnat. Et sunnat tel que le waliman, par exemple, est un repas tel que si on en fait à midi, si on a jeûné de façon nafil. Pas obligatoire, dans le ramadan, non. Ne faites pas ramadan à midi. Pendant le waliman, ne faites pas pendant ramadan, à midi. Le soir, oui, mais le midi. À tel point que si on a jeûné et de façon nafil, par exemple un lundi ou un jeudi, certains le font, eh bien, il nous est demandé de casser, de rompre son jeûne pour aller au waliman et de le remplacer. Ça prouve à quel point, aujourd'hui, ça semble tenir à ça. Et si on voulait pas, on peut pas faire ça, si on est malade, on est en régime, on peut pas manger toutes sortes de choses, la charia nous demande, le prophète nous demande, sallallahu alayhi wa sallam, d'aller au aliment, de s'asseoir, de s'excuser en disant, je peux pas manger, mais je suis là, avec vous, de tout cœur, je partage votre repas d'une certaine façon, de façon virtuelle, mais je ne pourrai pas manger. Alors, il y a 7 repas qui sont sunnat, sachez-le, ça nous fera gagner beaucoup de repas, moi-même en premier. Le premier, c'est le waliman, le repas de mariage. Pourquoi ce waliman? Le professeur Hassan a dit, c'est une manière pour l'homme d'exprimer son accord avec son épouse
après avoir été ensemble.
Parce que le valiment a lieu après le nika, vous comprenez.
Donc c'est une manière pour lui d'exprimer toute sa joie, toute sa reconnaissance, tout son bonheur. Et c'est ce qu'il exprime par ce repas qui est le valiment. C'est ce qu'on va faire ce soir. Deuxièmement, on a aussi, quand on a fait une circoncision, l'enfant, quelqu'un de chez nous a fait une circoncision, si on fait un repas à ce moment-là, c'est sunnah. Quand je dis un repas, ça ne veut pas dire inviter 5000 personnes, hein. On peut faire 3-4 personnes. Le prince Hassan disait, il y a un baliment là. Bon, tout le monde apporte de chez lui quelques tasses, on met ensemble et on mange, c'est ça le baliment. On n'est pas obligé de couper caprice, bœuf. Si on peut, bien sûr, il faut faire. Le khatna, la circoncision. Troisièmement, la naissance d'un enfant, ce qu'on appelle le abrika. Ça, c'est troisième. Quatrièmement, quand un enfant a fini son Qur'an, comme ça, dit-il, ou quand il a fini son Hizr Qur'an, si on fait repas à ce moment-là, c'est sunnat. Et faites-le avec le niyat du sunnat, vous avez en plus le savoir. Cinquièmement, c'est le waqira. Qu'est-ce que c'est le waqira? Par exemple, quelqu'un a acheté une nouvelle maison. Donc, il n'y a pas que chez les autres qu'on fait la pendaison de la crémaillère, comme on dit. Le waqira, c'est un repas qu'on offre à des amis, à des voisins, à ses parents, hein, au moment où on construit une nouvelle maison, où on va changer. Sixièmement, c'est le voyageur qui retourne d'un voyage, en particulier si c'est le Hajj ou le Umrah. Il offre un repas et c'est considéré comme sunnah. Enfin, c'est la réussite d'un examen. Après un examen, si quelqu'un offre un repas, considéré comme sunnat des muakkadat. Donc c'est cette cas que Hafez ibn Hajar Makki, rahmatullah alayhi, a cité en fils.
En bas, on l'a dit.
Merci. Soit présent.